Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles en lumière, en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et ce fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez déjà envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous allons maintenant dans ce cours d'exégèse de la Sainte Écriture, après avoir terminé l'introduction, nous allons commencer maintenant l'étude de l'Évangile selon saint Matthieu, le premier des évangiles, écrit par un des évangélistes. Donc je vous rappelle ce que nous avons déjà dit, comme un résumé du résumé en quelque sorte, sur saint Matthieu. Donc saint Matthieu était un apôtre, donc il a écrit en l'an 37. Donc nous avons déjà vu qu'il a écrit son évangile en l'an 37. Surtout pour insister sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'uni à la divinité par le mystère de l'incarnation. Donc les Juifs, qui étaient tous des Juifs croyants, ils savaient que le Messie allait arriver et donc ils croyaient en la divinité de Dieu, mais il ne croyait pas en son humanité, en sa possibilité de prendre une nature humaine tout en étant Dieu. Et donc, saint Matthieu va insister surtout sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment homme, qui est né de la Vierge Marie le jour de Noël. C'est d'ailleurs pour cela, je vous l'ai déjà expliqué, qu'il est représenté sous la forme d'un homme. Les Juifs attendaient un Messie, si vous voulez, mais en même temps, ce Messie pour eux était un Messie, encore une fois, complètement déconnecté et de la divinité et de l'humanité. Si vous voulez, ils n'arrivaient pas à comprendre que le Messie puisse être à la fois Dieu et à la fois homme. C'est tout le mystère de l'incarnation sur lequel donc saint Matthieu va explicitement insister. Alors, sur le site internet, donc, sous l'onglet Évangile selon saint Matthieu, vous allez avoir le premier fichier qui contient les fichiers. Le fichier va contenir les chapitres 1 à 5. Donc j'ai divisé les évangiles en groupes de 5 chapitres parce que c'est moins lourd électroniquement parlant et c'est aussi plus facile d'imprimer ces fichiers qui sont moins lourds. Donc je vais commencer rapidement par une petite introduction. La grande introduction a déjà été faite, mais je veux quand même rajouter une petite introduction pour chacun des évangélistes. Là, je vais parler un petit peu de saint Matthieu. Donc, saint Matthieu a écrit en hébreu. En fait, on dit qu'il a écrit en syriaque, mais le syriaque n'était rien d'autre qu'une espèce d'hébreu corrompu. Donc, il a écrit très tôt après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, 4 années après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, donc tout à fait au début. La même année, en fait, que Lévi se séparait pour aller aux gentils. Donc, après la naissance du Christ, donc en l'an 37, 4e après sa passion, ce fut la date de cet évangile selon saint Matthieu. Donc, immédiatement, l'évangile de saint Matthieu, donc écrit pour les Juifs, donc dans la langue des Juifs, l'hébreu corrompu qu'il parlait à l'époque, cet évangile fut très rapidement traduit de l'hébreu en grec, ce qui fait qu'au début, les historiens ne savaient pas très bien si l'original était en grec ou en hébreu. En fait, il semble maintenant certain que l'original était vraiment en hébreu. Et il était obligé donc de traduire l'évangile en grec. L'évangile a été traduit en grec, sans doute pas par saint Matthieu lui-même, mais traduit ensuite en grec pour pouvoir être diffusé sur tout le pourtour de la Méditerranée. Donc, il ne faut pas oublier ça dans la, quand on étudie l'évangile selon saint Matthieu. Il ne faut pas oublier que saint Matthieu va écrire à des gens qui avaient déjà la foi. Donc, ils avaient la foi de l'Ancien Testament. Donc, ils croyaient en Dieu, ils croyaient en Dieu créateur, mais ils ne croyaient pas en un Dieu incarné. Donc, saint Matthieu a écrit surtout pour ces gens-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'évangile. Donc, j'ai mis une note ici dans l'introduction que vous avez donc sur le polycopié. Il est bon que ceux qui me suivent surtout par Internet aient le polycopié devant eux, c'est plus facile. Au moins sur Internet, voire même sur votre écran d'ordinateur, voire même, si vous le souhaitez, de l'imprimer, plus facile. Donc, saint Matthieu, d'après la tradition, avait écrit encore une fois son évangile juste avant que les apôtres ne se dispersèrent. Et les Juifs avaient demandé avant le départ donc des apôtres pour les gentils, qu'il y ait l'un d'entre eux qui leur laisse par écrit comme un résumé de ce qu'ils avaient prêché oralement. Donc c'est saint Matthieu qui était resté sur place et qui va leur donner cet évangile. Donc ils savaient que la persécution allait arriver et tous étaient en danger, ici j'ai mis la note, d'être dispersés, craignant d'être privés de leur maître dans la foi. Ils voulaient ne pas être privés de l'enseignement et demandèrent à saint Matthieu d'écrire l'histoire des paroles et faits du Christ, afin qu'où qu'ils soient, ils aient avec eux le résumé écrit de ce qu'ils croyaient dans leur cœur. Donc l'original, maintenant, hélas, a été perdu. Vraisemblablement, cet original était dans la bibliothèque d'Alexandrie, était brûlé lorsque les musulmans ont brûlé la bibliothèque. Mais saint Jérôme certifie avoir vu l'évangile de saint Matthieu écrit en hébreu dans la bibliothèque d'un certain Pamphilius, martyr, à Césarée. Ce texte hébraïque est maintenant, hélas, perdu. Donc on n'a plus l'original. Alors, un certain nombre de notes ici qui sont importantes. Selon saint Jérôme, que c'est surtout lui que je vais suivre dans cette introduction, l'évangéliste saint Matthieu est le plus prééminent parmi les quatre évangélistes. Pourquoi ? D'abord parce qu'il fut le premier à écrire un évangile. Et c'est pourquoi Tertullien l'appelle le plus fidèle prédicateur de l'évangile. Donc il va insister plus que les autres sur la dignité royale du Christ. Donc en tant que roi, il est homme. Donc c'est un roi humain. Pas simplement un roi divin au ciel, mais un roi humain ici-bas. Et donc, en insistant sur la dignité royale du Christ, saint Matthieu insiste aussi sur son humanité. Il fut aussi l'apôtre de l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie a reçu la foi très très tôt, tout à fait au début de l'histoire de l'Église. Malheureusement, la foi catholique ne s'est pas conservée en Éthiopie. Ils sont tombés ensuite dans des hérésies monothélistes et monophysites qu'on expliquera après, et aussi dans le nestorianisme. Mais ils avaient au début la foi catholique, et ce qui explique que encore aujourd'hui il y ait des congrégations chrétiennes assez fervente en Éthiopie, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc il fut envoyé en Éthiopie et là il a converti la fille du roi. Le roi s'appelait Hyrtacus et sa fille s'appelait Iphigénie et avait consacré sa virginité à Dieu par l'intermédiaire de saint Matthieu. Et donc le roi Hyrtacus a voulu faire épouser sa fille à saint Matthieu qui, ayant refusé, fut assassiné par le roi Hyrtacus, et donc il est martyr. Alors un point aussi très important sur lequel insiste saint Jérôme, c'est que saint Matthieu ne fut pas converti par notre Seigneur Jésus-Christ après avoir entendu des prédications extraordinaires ou assisté à des grands miracles. Non, il a été converti simplement par un seul mot, Suivez-moi. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré Matthieu, Saint Matthieu, à son cabinet de change, à son bureau de change, où il changeait l'argent, recevait les impôts, donc c'était un de ces hommes qui était détesté par les Juifs. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ le vit, il lui dit simplement « Suivez-moi ». Et lui, lâchant tout, abandonnant tout, changea immédiatement en un autre homme, en un apôtre, et abandonna tout pour le suivre. Donc il a beaucoup plus de mérite, je dirais, que ceux qui ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ après avoir vu des miracles éclatants. Donc, il fut témoin après sa conversion de tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, imitateur de sa vie, compagnon de ses voyages, ses travaux et de ses soucis, dans tout son ministère sur la terre. Donc, Saint Matthieu va suivre un ordre très exact des différents événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement par exemple à Saint Marc, qui raconte les faits, mais sans qu'il y ait vraiment un ordre dans les faits racontés. Saint Matthieu, au contraire, va suivre un ordre très précis, toujours le même. La naissance du Christ, bien sûr, son baptême, sa tentation, sa prédication, les miracles, la passion, la résurrection et l'ascension, pour qu'on puisse suivre complètement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour répondre à une question qui m'a été posée, je voudrais situer un peu l'arrivée du premier évangile dans le cycle de la création du monde. Donc, je vous ai déjà dit que l'Église ne s'est jamais engagé à donner une date de commencement de création du monde, puisque les 6 jours de la création, peuvent être entendus, pas simplement comme une période de 24 heures, mais par n'importe quelle durée. Et donc, jusqu'à l'arrivée du premier homme, création de l'homme, Saint Adam, par notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une liberté de date. Cependant, d'après la plupart des pères de l'Église, d'après aussi, le martyrologe romain, on peut donner quand même des dates approximatives, même s'il n'y a pas union entre les pères de l'Église, selon les différentes sources qu'ils utilisaient, selon les différents évangiles, les différents textes sacrés. Il y a des dates qui sont un peu différentes, mais il y a quand même une idée générale qu'on peut donner. Donc, entre la création d'Adam et Ève et l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, comptons à peu près 5200 ans. Bon, c'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé 5200 ans après la création d'Adam et Ève. Bon, par rapport à nous, il faut rajouter 2000 ans. Donc, la création du premier homme, donc, ne remonte pas à plus de 7000 ans par rapport à nous. Donc, deuxième date qu'il faut à peu près connaître, c'est l'arrivée du déluge. Donc, la création d'Adam et Ève, un peu plus de 5000 ans, 5200 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Le déluge, 3000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Abraham, 2000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et David, à peu près 1000 ans. Donc, je répète, 5200 ans, création d'Adam et Ève. 3000 ans avant notre Seigneur, le déluge. 2000 ans Abraham, 1000 ans David. Avec ça, on arrive à se retrouver. Encore une fois, l'Église ne donne pas des dates exactes parce que nous n'avons pas ces dates exactes d'après les textes de l'Évangile. Alors, sur le polycopier, prenez maintenant la page 2. On va commencer directement après cette petite introduction très courte. Nous allons commencer le texte de Saint Matthieu. Donc, je vous l'ai dit, Saint Matthieu est représenté par un homme. Dans la série des 4 représentations des 4 évangélistes, donc comme je vous rappelle, elle est très connue, et cette représentation étant suivie par tous les pères et protégée par l'infaillibilité. Donc Saint Matthieu est représenté par l'homme, parce qu'il commence son évangile par le récit de la généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Marc est représenté par le lion, parce qu'il commence par la prédication de Saint Jean-Baptiste dans le désert il y a des lions, il y avait des lions à l'époque. Saint Luc, par le taureau du sacerdoce, parce qu'il commence par le sacrifice de Zacharie, et dans ces sacrifices étaient offerts des taureaux. Et Saint Jean, est représenté par l'aigle, parce qu'il est celui qui a un évangile beaucoup plus théologique que les autres, beaucoup plus élevé que les autres. Alors, Encore une fois, n'oublions pas pour comprendre cet évangile que notre Seigneur, que Saint Matthieu va surtout insister sur l'union entre la divinité et l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il commence par la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le premier verset, livre de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Alors, première question évidemment qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces deux patriarches, David et Abraham, sortent du lot. Pourquoi surtout fils de David et fils d'Abraham. Il aurait pu parler de tous les autres, d'ailleurs dont il va parler plus tard. Mais pourquoi ces deux-là au début? Tout simplement parce que Saint Matthieu, j'explique en dessous, sous le titre Saint Matthieu, page 2, sur le polycopier. Donc je rappelle que pratiquement l'intégralité des textes de ce polycopier vient des pères de l'Église. Soit des textes que j'ai pris dans Saint Thomas à la chaîne d'or, soit des textes que j'ai pris dans la grande explication des évangiles donnée par Cornelius Lapide, soit par le père Thirier. Comme eux-mêmes citent les pères constamment, donc en fait c'est que les textes des pères qui sont mis bout à bout. J'essaie de trouver un petit peu d'ordre là-dedans pour que ça soit plus facile à suivre. Mais ces textes ne sont pas de moi. Donc, Saint Matthieu écrivait pour des Juifs, je vous l'ai dit, qui connaissaient la nature divine, qui était donc tout à fait inutile de leur en parler. Ce qui leur importait de leur apprendre, c'est le mystère de l'incarnation. Donc, Saint Jean, au contraire, a écrit son évangile pour les gentils, qui ignoraient que Dieu était un fils. Il lui fallait donc tout d'abord leur enseigner que Dieu avait un fils, Dieu lui-même, et que ce fils était incarné. Alors, on va se demander donc pourquoi David et Abraham? Tout simplement parce que le Christ devait réunir en sa personne trois caractéristiques, trois dignités. Il est roi, il est prophète et il est prêtre. Et ces trois caractéristiques du Messie, donc les trois dignités du récit, la dignité royale, la dignité prophétique et la dignité sacerdotale, sont représentées par ces deux mots de David et d'Abraham. Bon, Abraham était à la fois prêtre et prophète, et David n'était pas prêtre, mais il était roi et prophète. Donc entre les deux, Abraham et David, on a les trois dignités. La dignité du sacerdoce chez Abraham, la dignité prophétique chez Abraham et David, et la dignité royale chez le roi David. Donc, ainsi, le Christ est à la fois roi, à la fois prophète et à la fois prêtre. Il est évident que quand il est roi, prophète et prêtre, il est roi, prophète et prêtre en tant qu'homme. C'est en tant qu'homme que notre Seigneur Jésus-Christ est souverain prêtre. Et il est souverain prêtre parce que son humanité, justement, est unie à la divinité. Mais c'est en tant qu'homme qu'il est prêtre. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est appelé dès le début par Saint Matthieu, fils de David et fils d'Abraham, pour bien nous montrer que le Messie avait cette triple dignité qu'il tenait de deux de ses aïeux, qui lui avait été dévolu par le droit de naissance, à savoir fils de David, donc prêtre et prophète, fils de David, prêtre, roi et prophète, pardon, et fils d'Abraham, prêtre et prophète. Il était ainsi plus facile pour les Juifs de comprendre à partir de cela que notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que prêtre, en tant que prophète, mais aussi en tant que roi, avait un véritable pouvoir sur eux comme homme. Pas simplement comme Dieu, mais aussi comme homme. Pourquoi? Parce que là, on touche déjà le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature, parce qu'il est créateur, mais il est aussi roi par droit de conquête, comme le dit le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas. Il est roi par droit de conquête aussi parce qu'il est... Et par sa mort sur la croix le vendredi saint, il a racheté nos âmes du pouvoir du démon. Alors, Saint Matthieu insiste beaucoup sur l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, unie à sa divinité dans la même personne, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Incarnation, ça veut dire prendre chair. Donc le mystère de l'incarnation, rappelez-vous votre définition du catéchisme, je ne reviens pas, ce sont des choses qui sont quand même considérées comme connues. Définition des catéchismes, le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de la deuxième personne de la Sainte Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ, qui prend chair en prenant un corps et une âme très pure, dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie, le 25 mars, et notre Seigneur Jésus-Christ arrive donc dans ce monde extérieurement le 25 décembre, 9 mois plus tard. Alors, comme cette humanité unie à la divinité est le fondement de toute la foi catholique, il ne faut pas s'étonner que le démon, évidemment, cherchait à nier cette incarnation et à troubler les intelligences au niveau de l'incarnation. Donc, toutes les premières grandes hérésies vont avoir pour sujet l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec des mélanges, si vous voulez, entre ces hérésies, les premières hérésies ne sont pas très claires, une espèce de mélange. C'est ça qu'on appelle en général ces mélanges, la gnose. La gnose, ça veut dire des mystères qui étaient plus ou moins cachés. Le démon essaie de faire croire aux Juifs que le Messie n'avait pas tout révélé, qu'il y avait des tas de choses qui étaient cachées et qu'il fallait essayer de les découvrir. Et donc, il y a deux erreurs évidemment qui sont répandues immédiatement en général à partir de la gnose. Soit des gens qui ont poussé beaucoup trop l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ en oubliant sa divinité, soit des gens qui ont beaucoup trop poussé sa divinité en oubliant son humanité. C'est là où se place ce mystère, mystère insondable, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Donc j'ai mis ici, sur la page 2 du polycopier, de ce premier fichier sur Saint Matthieu, j'ai mis ici une série de grandes hérésies, justement contre l'humanité ou la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, contre le mystère de l'incarnation en fait. Celle qui a fait le plus de dégâts, c'est de loin l'arianisme. De loin l'arianisme, donc Arius, niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et prétendait que notre Seigneur Jésus-Christ était la première créature de Dieu. Première créature de Dieu en tant que supérieure à toutes les autres. Alors il utilisait, si vous voulez, c'était un sophisme, un faux raisonnement, basé sur le fait que en notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà expliqué souvent, il y a effectivement quelque chose de créé. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a en lui des choses créées. Son âme et son corps ont été créés de toutes pièces par Dieu au moment où le mystère de l'incarnation s'est réalisé. Dans la chambre où était la Très Sainte Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu la visiter le 25 mars. À ce moment-là, Dieu a créé de toutes pièces l'homme et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont unis à la divinité sans détruire ni l'humanité, ni la divinité, ni l'humanité. Donc il ne faut pas dire, soit, c'était une des plusieurs hérésies partie de ces fausses données, soit de dire que la divinité étant bien supérieure à l'humanité, la divinité a littéralement pompé complètement l'humanité, qui s'est incorporée à la divinité de telle sorte que la divinité a détruit pratiquement l'humanité, ou au contraire, que notre Seigneur Jésus-Christ, étant homme, créature de Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu dans son corps et dans son âme, est donc une créature, et donc n'est pas Dieu. Mais il est la première des créatures. Alors c'est là où il faut bien essayer de comprendre ce qu'est le mystère de l'incarnation, c'est l'union de la divinité avec l'humanité. Donc l'humanité est bien quelque chose de créé, encore une fois, le corps et le sang et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ ont été créés par Dieu au moment de l'incarnation, mais sans détruire la divinité, c'est ça que n'a pas compris Arius. Donc Arius s'est lancé dans des élucubrations invraisemblables, pour nier finalement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a plusieurs hérésies qui ont commencé sur ce thème. Donc j'ai mis ici un peu un résumé de ces grandes hérésies. Mais de loin, je pense que la plus importante, celle qui a fait le plus de mal, c'est les Ariens. Et ensuite, juste après ça, ça a déjà commencé un peu avant même ce qu'on appelle la gnose, dont on parlera plus tard, parce que je ne peux pas parler tout maintenant. Donc, j'ai mis ici un résumé de ses principales hérésies. Donc Cérinthe et Abion qui prétendaient que Jésus-Christ n'était qu'un homme, qui niait sa divinité. Paul de Samosate qui prétendait que Jésus-Christ n'était pas éternel, donc qu'il n'était pas Dieu. Photin, plus tard, au moment de la séparation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, renouvellera cette hérésie. Nestorius, son erreur fut d'avancer que celui qui était né de la Vierge Marie n'était qu'un homme, avec lequel le Verbe divin avait former unité de personne et contracter une union indissoluble. Erreur que les oreilles catholiques ne purent jamais supporter. Donc, les Nestoriens, le nestorianisme nie la maternité divine. Il a fallu longtemps pour que l'Église, si vous voulez, établisse cette vérité, qui était déjà depuis le début, mais qui n'était pas explicitée. Il a fallu attendre le concile d'Éphèse au début du 5e siècle, avec tout le travail de Saint Cyril d'Alexandrie pour enseigner justement que Marie était, la Troisième Vierge Marie était théotokos, c'est-à-dire mère de Dieu. Donc elle est mère d'une personne qui est Dieu. Et Nestorius, par exemple, faisait cette distinction, qu'il n'a pas le droit de faire, entre la Sainte Vierge Marie, en disant qu'elle était mère d'un homme, mais pas mère de Dieu. Donc on ne pouvait pas dire qu'elle était mère de Dieu. Et malheureusement, ce nestorianisme a fait beaucoup de dégâts en Arménie, en Éthiopie, dans plusieurs pays dans lesquels la foi catholique a été prêchée très tôt, dès le premier siècle, par notre Seigneur, par les apôtres. Il ne faut pas oublier ça. On entend un peu trop ces choses-là, d'ailleurs, chez les catholiques, qui parlent toujours de la France unie de l'Église. Bon, c'est vrai que la France est filiée de l'Église, mais enfin, il ne faut quand même peut-être pas oublier qu'il y a eu des pays, notamment en Arménie, où la foi catholique a été prêchée et la population est devenue chrétienne, catholique, donc presque un siècle avant la conversion du roi Clovis. Entre autres en Arménie, avec Saint Grégoire l'Illuminateur, donc au 3e siècle, 4e siècle, et déjà il y avait la foi catholique qui était là. Encore une fois, l'Éthiopie est devenue chrétienne dès le 1er siècle avec la prédication de Saint Matthieu. Donc ensuite, autre hérésie, le Valentin, donc lui, il va nier l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, en disant que le Christ, envoyé par son Père, avait apporté sur la terre un corps spirituel, et c'est ce qui n'avait rien pris de la Vierge Marie, mais qui n'avait fait que passer par son sein, comme l'eau passe dans un canal ou dans le lit d'un ruisseau. Encore une fois, on voit bien ici que c'est ce qu'on appelle un sophisme. On parle de choses qui sont vraies avec un faux raisonnement. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ va passer par le sein de la Très Sainte Vierge Marie sans l'ouvrir. La Très Sainte Vierge Marie est vierge avant, pendant et après son enfantement. Donc, les pères de l'Église expliquent que notre Seigneur Jésus-Christ, comme bébé, est sorti du sein de sa mère sans violer son intégrité physique. Donc, elle n'a pas perdu sa virginité. Et notre Seigneur Jésus-Christ est sorti, disent les pères de l'Église, comme un rayon de lumière passe à travers le verre. Cependant, cet enfant qui est sorti miraculeusement de notre Sainte Vierge Marie était vraiment homme, contrairement à ce qu'enseignait Valentin. Donc Valentin disait que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un corps d'apparence. Ça va être repris après par d'autres hérésies qu'on appelle les hérésies docétistes, qui niaient tout simplement, encore une fois, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ était apparemment homme, mais pas véritablement homme. Et donc, quand on parle de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il donnait l'impression de souffrir, mais ce n'était pas une vraie souffrance parce qu'il n'était pas vraiment homme. Et qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas souffrir parce que Dieu ne peut pas souffrir. Et donc, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose de purement extérieur, purement artificiel. Vous voyez les conséquences. Donc, vous avez aussi les manichéens. Les manichéens, donc, une hérésie épouvantable qui a donné après l'hérésie cathare, les albigeois, tout ça, c'est une reprise du manichéisme, surtout saint Augustin qui a lutté contre ça. Donc le manichéisme, c'est on prétendu que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait qu'un corps imaginaire et fantastique qui n'avait pu naître d'une femme. Donc les manichéens, si vous voulez, enseignaient l'existence d'une double divinité, la divinité du bien et la divinité du mal. La divinité du bien, c'est l'esprit, la divinité du mal, c'est la matière. Donc, tout ce qui est matériel est méprisable, tout ce qui est spirituel est bon. Alors évidemment, logiquement, ils ont commencé par détruire le sacrement de mariage et autoriser les unions entre époux uniquement s'il n'y a pas d'enfant. On voit un petit peu les conséquences sur le plan moral. Ensuite, Apollinaire. Donc, soutient que le Christ est revêtu d'un corps, mais sans prendre d'âme. Alors on demande comment notre Seigneur Jésus-Christ peut-il être vraiment homme s'il n'a pas d'âme? Notre Seigneur Jésus-Christ étant vraiment homme, il a encore une âme. Donc pour les apollinaristes, cette faculté qui constitue l'homme raisonnable ayant manqué à l'âme du Christ, elle a été remplacée en lui par le Verbe de Dieu. Ça, c'est un peu des idées aussi de la gnose. Ensuite, Tychès, il n'y a qu'en notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait la réalité d'une chair humaine. Il y avait en lui, disait-il, qu'une seule nature. Là, on trouve l'arianisme. Et enfin, Origène. Alors lui, Origène, est un très grand docteur de l'Église, un très grand père de l'Église, qui est très souvent cité et dans saint Thomas d'Aquin, et dans le Père Thyrier, et aussi dans Cornelius à Lapide. Mais Origène a commis des erreurs, a suivi certaines erreurs. Entre autres, il a nié il enseignait, pardon, la préexistence des âmes, que toutes les âmes ont été créées par Dieu au début, qu'à chaque fois qu'un être nouveau arrivait sur la terre, Dieu prenait une âme qui avait été pré-créée. Ceci est condamné par l'Église. Alors, ces hérésies ont fait énormément de mal, et c'est pour cela que saint Matthieu, encore une fois, commence par ça. Donc, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, ça, si vous voulez, l'arrivée de Dieu, l'existence de Dieu était quelque chose, encore une fois, qui était accepté par tous les Juifs. Donc, il veut montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment fils de Dieu, tout en étant fils de David et fils d'Abraham. Donc, il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Il est en même temps fils de David et fils d'Abraham. Donc, il est à la fois Dieu, du côté divin, et du côté humain, il est prêtre, prophète et roi. Alors, ces hérésies ont fait un dégât énorme, surtout l'arianisme. Pratiquement, le monde entier s'est retrouvé à rien, sauf quelques évêques qui ont lutté efficacement contre l'arianisme. Il a fait énormément de dégâts, et ces dégâts ont mis bien des années à être éliminés. Pratiquement, il n'y avait plus que deux ou trois évêques, Saint-Athanase évidemment, Saint-Hilaire de Poitiers, qui luttaient contre l'arianisme. L'arianisme était infiltré dans tout le corps épiscopal pratiquement. Alors, je voudrais vous lire, pour vous aider à comprendre comment le bon Dieu s'occupe de certaines choses quand même, contrairement à ce qu'on pense. Et Arius a fait un dégât énorme. Mais je voudrais vous montrer comment le bon Dieu s'est en quelque sorte littéralement vengé d'Arius en faisant mourir de façon lamentable. Je voudrais vous lire dans Une bonne histoire de l'Église, les deux meilleures histoires de l'Église en langue française, c'est Yaron Bacher et Yadaras. Les deux sont très importantes. Hein. Yadaras doit faire 40 volumes, quelque chose comme ça, Rorbacher un peu moins. Et donc là, j'ai retrouvé le passage de Rorbacher, c'est celui que j'ai actuellement sous les yeux. Je voudrais vous lire l'histoire de la mort d'Arius. Vous verrez comment le bon Dieu, justement, rappelle qu'il est Dieu et le grand patron. Donc, on est à l'époque d'Arius, donc 4e siècle, et 3e siècle, pardon, et l'empereur a mandat, dit Rorbacher, l'évêque Alexandre, et lui dit qu'il fallait tendre la main à un homme qui cherchait à se sauver. Alexandre s'efforça de tromper l'empereur, mais voyant qu'il ne faisait que l'irriter par ses remontrances, pardon, il se tut et se retira. Bon. Alors, les Eusébiens étaient ceux qui suivaient un évêque arien qui s'appelait Eusèbe de Nicomédie. Les Eusébiens le rencontrèrent comme ils raccompagnaient Arius, qu'ils avaient pris à la sortie du palais, et le menaient par la ville avec grande pompe. Donc, on est à Alexandrie, au Caire, en Égypte, pour le faire voir à tout le monde. Ils voulaient le faire entrer dans l'église à l'heure même, et comme Alexandre s'y opposait, ils renouvelèrent leur menace et lui dirent qu'ils avaient fait venir Arius à Constantinople. C'est pas le Caire, excusez-moi, c'est Constantinople. Ils avaient fait venir Arius à Constantinople malgré lui, et qu'ils seraient bien aussi malgré lui le faire recevoir à la communion le jour suivant. Joseph de Nicomédie donc dit à l'évêque Alexandre, ses propres paroles, si vous ne voulez pas le recevoir de gré, je le ferai entrer demain avec moi dès le point du jour, et comment l'empêcherez-vous? Alexandre, donc, était l'évêque officiel, Saisi de douleur, entra promptement dans l'église, accompagné des deux personnes, dont l'une était Macaire, prêtre d'Alexandrie. Là, le saint vieillard, fondant en larmes, se prosterna devant l'autel, le visage contre terre, et dit « Seigneur, s'il faut qu'Arius soit demain reçu dans l'église, officiellement, retirez votre serviteur de ce monde, mais si vous avez encore pitié de votre église, et je sais que vous en aurez pitié, voyez les paroles de Zeb, ne permettez pas que votre héritage tombe dans le mépris. Ôtez Arius de ce monde, de peur que, s'il entre dans votre église, il ne semble que l'hérésie y soit entrée avec lui. » Je vous rappelle qu'Arius niait la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et tout le monde le suivait. Alexandre priait ainsi le samedi sur les 3 heures après-midi, et cependant les Eusébiens continuaient à mener Arius par la ville de Constantinople. Et comme en triomphe, et lui, se comptant déjà pour rétabli, tenait plusieurs vains discours. Il était près de la place de Constantin, où était la colonne de Porphyre, lorsque tout d'un coup, il changea de couleur. Donc il était amené en grande pompe avec tous les Ariens, tous les hérétiques, qui veulent l'introduire en grande pompe dans la cathédrale de Constantinople. Et d'un seul coup, il changea de couleur. Se sentant pressé subitement de quelque nécessité naturelle, il demanda s'il n'y avait pas dans les environs quelque commodité publique. On lui en montra une, où il entra aussitôt, laissant à la porte un valet qui le suivait. Là, tombant soudain en défaillance, il se vida en même temps les boyaux, les intestins, le sang, la rate et le foie, et mourut, crevé par le milieu du corps, comme Judas. Alors évidemment, ça fait son petit effet. Cette nouvelle s'étant répandue par toute la ville, les fidèles accoururent à l'église pour rendre grâce à Dieu d'une protection si visible qu'il avait donnée à la vérité, car ils ne regardaient point la mort d'Arius comme un accident naturel. Mais comme l'effet des prières d'Alexandre et de Jacques de Nisibe et comparait cette mort si hideuse à celle de Judas dont Arius avait imité l'impiété. Judas aussi qui s'était pendu, avait éclaté par le milieu et tous ses viscères étaient sortis de son corps. Constantin, voyant ici le doigt de Dieu dans cette prompte punition du parjure d'Arius, ne douta plus qu'il ne fût véritablement hérétique et s'attacha donc plus que jamais à la foi de Nicée. Un grand nombre d'Ariens se convertirent alors, mais ceux qui demeurèrent opiniâtres attribuèrent cette mort à un sortilège, tant il était constant qu'elle n'était pas naturelle. Le lieu où elle arriva fut regardé comme maudit. On allait le voir en foule et on s'avertissait d'éviter le siège funeste. Cela dura jusqu'à ce qu'un Arien riche et puissant y fit bâtir une maison afin d'en effacer la mémoire en changeant la forme de l'édifice. Les Eusébiens, donc les Ariens, étaient honteux et concernés d'une pareille catastrophe. Ils ne changèrent pas pour cela. Pour se tirer d'affaire, il leur restait toujours l'intrigue et la flatterie. Donc on voit bien, vous voyez que le bon Dieu protège son église. Mais parfois il attend, on a bien vu avec l'arianisme qu'il a attendu pratiquement la mort d'Arius pour que l'arianisme puisse être détruit. Encore une fois, l'arianisme avait envahi tout le monde entier. Donc c'est la raison pour laquelle saint Matthieu, qui est inspiré par le Saint-Esprit, qui sait très bien que les premières grandes hérésies vont arriver sur le message, sur le motif de l'incarnation, et donc Saint Matthieu parle déjà donc de l'union de notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham, donc vraiment homme et en même temps fils de Dieu, donc vraiment Dieu. Donc pour un détail aussi que j'ai envie de vous donner, c'est que la date de la mort d'Arius, une date très importante au niveau des hérésies, de la lutte contre l'hérésie, c'est 336. Donc Arius est mort à Constantinople en 336. Alors, continuons un petit peu donc les explications qui sont les résumés des explications des pères, telles que vous avez sur le polycopier en bas de la page 2. Donc les évangélistes, saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, vont anéantir toutes ces hérésies qui étaient déjà en formation dès le début. N'oublions pas que dès l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, les juifs, les princes juifs plus exactement, pas tous les juifs, mais les princes juifs, les scribes, les pharisiens, les hérodiens, vont nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les évangélistes qui écrivent sous l'inspiration du Saint-Esprit, vont par avance déjà mettre à plat, si vous voulez, toutes les futures hérésies qui vont arriver à travers le monde. La première étant surtout l'arianisme, donc la négation de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc sur ce point-là, précisément, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ que les évangélistes vont insister. Donc saint Matthieu va surtout soutenir que Jésus-Christ tire son origine des rois de Juda, c'est pour ça qu'il parle de David. Il prouve qu'il est véritablement homme et qu'il a réellement revêtu notre chair. Donc saint Luc décrit son origine sacerdotale, je voulais dire, commençant justement son évangile par le sacrifice de Zacharie. Donc il est prêtre, c'est-à-dire fils d'Abraham. Saint Marc, au contraire, par ces mots, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, et saint Jean, par cet autre, au commencement était le Verbe, proclament tous les deux qu'avant tous les siècles, il a toujours été Dieu et Dieu et en Dieu le Père. Donc saint Marc, je vous le rappelle, va beaucoup insister, lui, sur la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, saint Matthieu sur l'humanité, saint Marc sur la royauté, saint Luc sur le sacerdotal, le caractère sacerdotal de notre Seigneur, et saint Jean sur sa divinité. Ceci, c'est pour résumer, il est évident que tous les évangélistes vont parler des quatre choses. Hein. Mais chaque évangéliste a quand même sa façon de parler et sa façon de progresser dans l'établissement de la vérité. Donc, page 3, maintenant, en haut de la page 3 du polycopié. Je rappelle qu'on est dans le polycopié sur saint Matthieu, le premier fichier, sur les 5 premiers chapitres de saint Matthieu. Donc, les pères parlent, pour représenter ces différentes générations qui vont séparer notre Seigneur Jésus-Christ du roi David, d'Abraham, et puis avant, qui vont monter jusqu'à plus descendre, plus exactement, jusqu'à Adam, premier homme. Donc ces générations sont représentées, disent les pères, par les barreaux de l'échelle de Jacob, au-dessus de laquelle Dieu se tient, représentant toutes ces générations. Vous avez dans la plupart des cathédrales du Moyen-Âge des vitraux magnifiques, notamment à Chartres, et ailleurs, qui représente cette échelle de Jacob, où on voit, donc en quelque sorte, de Jacob sortir une échelle avec tous les descendants de Jacob qui vont arriver jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous lis ici le texte que vous trouvez en livre de la Genèse, chapitre 28, verset 12, de cette échelle de Jacob. Donc Jacob partit de Beersabé et s'en alla à Haran. Il arriva dans un lieu, donc c'est au début de l'histoire du peuple hébreu. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, parce que le soleil était couché. Ayant pris une des pierres qui était là, il en fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Donc je rappelle que Jacob est le fils de Isaac et Rebecca. Il eut alors un songe, et voici une échelle était posée sur la terre, et en son sommet touchait au ciel. Et voici sur elle des anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Et en haut se tenait Yahvé. Il dit, je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Donc tous les pères, tous, pratiquement l'intégralité des pères qui expliquent la même chose, tous les pères disent que cette échelle de Jacob, du livre de la Genèse, au chapitre 12, représente les différentes générations qui séparent notre Seigneur Jésus-Christ de ses ancêtres selon la chair. C'est pour cela que l'Évangile insiste tant sur le fait que David, Abraham, notre Sainte Vierge Marie et même Saint Joseph, mais qu'il ne soit que le père putatif, n'était pas le père physique de notre Seigneur, mais était le père putatif de notre Seigneur. Donc que tous ces très grands personnages étaient tous de la famille de David et tous de la famille, donc issus de la en ligne directe, si vous voulez, depuis les premiers patriarches. Donc, par cette échelle de Jacob et par cette généalogie humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle Saint Matthieu commence son évangile, eh bien, c'est l'union qui est manifestée entre notre Seigneur Jésus-Christ qui se fait chair et l'origine de l'humanité, pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le nouvel Adam, vient pour racheter les fautes du premier Adam. C'est tout le thème que l'on va retrouver pendant le temps de la Septuagésime. On vient de passer le dimanche de la Septuagésime, et ce temps, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, avant le mercredi des cendres, donc ce temps des 70 jours avant Pâques, qui va s'arrêter au début du carême, avec l'arrivée du mercredi des cendres, ensuite on aura le carême jusqu'à Pâques, eh bien ces 70 jours représentent les 70 ans que les Hébreux ont dû passer en Mésopotamie, lorsqu'ils ont été envoyés en esclavage, après que les Assyriens aient pris possession de la ville de Jérusalem. Alors, vous voyez que Saint Matthieu fait très attention donc à établir dès le début les choses sur des bases très importantes pour les Juifs. Donc, attention, ce Christ que je prêche n'est pas simplement Dieu, il est aussi homme. Donc, en tant qu'homme, il a pu mourir sur la croix. En tant que Dieu, il peut nous racheter. Donc, ce Messie que vous avez crucifié est en même temps Dieu éternel et tout-puissant qui nous a ouvert les portes du paradis par son Fils. Donc, ce que cherche à prouver Saint Matthieu, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement le Messie promis à Abraham et qu'il est bien le fils d'Abraham et des patriarches et qu'il doit donc être chéri, reçu et adoré par les Juifs. Et on voit bien dans le texte de la Genèse, à chaque fois, notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, va parler avec tous ces grands patriarches, donc depuis Abraham jusqu'à Joseph et même après, eh bien, il va parler avec ces grands patriarches en leur annonçant justement l'arrivée du Messie, sans préciser quand arriverait ce Messie. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » D'accord ? « Et ta postérité sera comme la poussière de la terre. » Ça veut dire qu'il explique bien que le royaume que crée notre Seigneur Jésus-Christ va durer dans le temps pour permettre l'arrivée du Messie. Et ça, c'est déjà dans la toute première partie de l'histoire de l'humanité, dans le proto-évangile. Donc, dès le début, notre Seigneur Dieu va parler et annoncer qu'il va mettre une opposition entre le démon et l'homme, et il annonce aussi, ça c'est très important à comprendre, dès le début il est annoncé que le Messie va arriver. Voilà ce texte qui est très connu. Donc, il dit à propos de la Sainte Vierge Marie, puisque c'est elle qui est désignée là, elle, tu meurtriras la tête et tu la meurtriras au talon. En fait, le texte exact, c'est mieux de dire, elle te meurtrira, elle t'écrasera la tête et tu chercheras à la meurtrir au talon. D'accord ? Donc, on voit très bien que dès le début, notre Seigneur Jésus-Christ, devant Adam et Ève qui viennent de se rendre compte de la catastrophe qu'ils viennent de provoquer pour tout le monde entier, donc annonce justement qu'il va y avoir une inimitié qui va être créée entre le démon et la femme. La femme, c'est la très Sainte Vierge Marie, et c'est aussi l'Église. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Ipsa conteret. C'est-à-dire, elle t'écrasera la tête. C'est un féminin. Et dans l'Église moderne de Vatican II, ils cherchent à remplacer ça par un masculin pour faire croire que c'est l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ qui est représentée là, que la Sainte Vierge n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est un féminin, c'est bien la très Sainte Vierge Marie qui est déjà annoncée. Alors, ces textes sont, vous voyez, d'une extrême importance, et c'est dans cet esprit qu'il faut replacer le texte de Saint Matthieu. Donc voilà pourquoi Saint Matthieu commence ainsi. Donc livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc Saint Matthieu va faire donc très attention à faire descendre la généalogie du Christ depuis Abraham à travers donc 42 générations pour bien montrer aux Juifs que notre Seigneur Jésus-Christ est le véritable Messie et qu'il doit être donc reçu par eux. Ensuite commence la longue série de ces générations qui est détaillée dans le texte de Saint Matthieu. Alors, je ne vais pas donner tous les détails, ce sont des choses qui sont importantes. Verset 2 du chapitre 1, donc après l'exorde, le début du livre de la généalogie, notre Seigneur Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc il est dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc, Saint Matthieu, ce que disent les pères, je vous lis ici le texte et je le commenterai au fur et à mesure. Saint Matthieu, en commençant son évangile par la généalogie de, généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ, prouve par là qu'il a entrepris de nous raconter l'origine de Jésus-Christ selon la chair. Encore une fois, pour bien prouver son humanité. On verra après que Saint Luc, au contraire, qui se propose de nous le présenter surtout comme un prêtre chargé d'expier nos péchés, ne raconte la généalogie de Jésus-Christ qu'après son baptême. Alors que Saint Jean lui rendit ce témoignage, voilà celui qui efface les péchés du monde. Donc, cette suite des générations dans Saint Matthieu nous représente notre Seigneur Jésus-Christ prenant sur lui nos péchés, et dans Saint Luc, notre Seigneur Jésus-Christ effaçant ses péchés par son sacerdoce royal. Bon. Et notre Seigneur Jésus-Christ prend sur lui nos péchés en tant qu'homme. En tant que Dieu, Dieu ne peut pas être souillé par le péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, ne peut pas être non plus souillé par le péché intérieurement, mais il va prendre sur lui nos péchés. Et ceci est parfaitement expliqué par les pères de l'Église, je vous l'ai souvent déjà expliqué en sermon, notamment dans certaines paraboles, comme la parabole du bon samaritain. Donc cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui tombe au milieu de brigands, qui le laisse à moitié mort sur le bord de la route, eh bien cet homme, c'est Adam. Et donc le bon samaritain qui vient et qui va soigner le moribond avec l'huile et le vin, symbole du sacrement de la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'extrême onction, qu'est-ce qu'il fait? Les textes disent bien qu'il va prendre le moribond et le mettre sur sa propre monture. Et tous les pères de l'Église expliquent que cette monture représente l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette monture, c'est un âne. Un âne est quelque chose de matériel qui montre que notre Seigneur Jésus-Christ avait bien un corps matériel. Et cet homme qui est au bord du chemin, qui est à moitié mourant, c'est vraiment, il représente notre Seigneur Jésus-Christ qui avait un véritable corps et qui va vraiment être mis à mort par les Juifs. Mais comme il est Dieu, comme son humanité est unie à la divinité, eh bien, cette mort par les Juifs ne va être que provisoire. Il va ressusciter des morts le troisième jour. Donc, Saint Matthieu va insister sur notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme qui va prendre nos péchés sur lui. Notre Seigneur Jésus-Christ va devenir comme un homme en tout, sauf le péché, bien sûr. Donc Saint Matthieu dresse cette généalogie en descendant, alors que Saint Luc en la remontant, encore une fois, parce que les deux n'ont pas le même but, hein, pas le même but du tout. Donc Saint Matthieu, encore une fois, veut montrer la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ en insistant sur son humanité, et Saint Luc, au contraire, en insistant sur son sacerdoce. Alors, nous voyons que ces grands aïeux qui sont cités, donc au début David, Abraham, puis ensuite Isaac, Jacob, Judas et ses frères, on verra ensuite que d'ailleurs certains de ces noms ne sont pas forcément des noms qui sont absolument glorieux. Hein. David lui-même a fait des grosses bêtises, entre autres, a pratiqué l'adultère, a pratiqué l'assassinat en tuant Uri, l'époux de Bethsabée. Mais David est grand par sa manifestation, sa croyance, sa foi en la miséricorde du bon Dieu. Parce que le prophète Nathan est venu prévenir David que Dieu était parfaitement au courant de ce qu'il avait fait et qu'il allait falloir payer tout ça, eh bien David va se mettre à genoux, tomber à genoux en pleurs pour demander pardon au bon Dieu de ses péchés. Et c'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ se dit très souvent fils de David. Donc chacun des aïeux du Christ, notamment David et Abraham, et ensuite les grands patriarches du début, Isaac, Jacob, et Joseph, donc les fils de Jacob, donc vont représenter notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces grands patriarches, non seulement nous rappellent une histoire, mais encore une allégorie, une moralité. Je l'ai déjà expliqué au début de ce cours, qu'il faut voir souvent dans les textes de l'Écriture sainte un sens allégorique. C'est-à-dire un passage de l'Ancien Testament va représenter le Nouveau Testament. Donc ces aïeux de l'Ancien Testament représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc les vertus de ces aïeux vont représenter les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, il y a un sens anthropologique, un sens moral, dans le sens que ce qui se passe pour ces grands aïeux de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une leçon pour chacun d'entre nous de ce que nous devons faire. Donc chacun des aïeux du Christ, ça c'est dans le texte qui est sur le polycopier, page 3, au milieu de la page, chacun des aïeux du Christ doit nous rappeler non seulement leur histoire, mais encore une allégorie et une moralité. Hein, une allégorie entre ce que tous ont été la figure du Christ, hein, ça c'est le sens allégorique, et une moralité, c'est le sens anthropologique, parce que chacun d'eux nous inspire la vertu par la signification de son nom ou par les exemples de sa vie. Hein. Donc on voit des vertus extraordinaires chez ce grand patriarche, par exemple chez Abraham, c'est surtout sa foi extraordinaire. Donc notre Seigneur Jésus-Christ lui explique, Dieu va lui expliquer qu'il va devenir le père d'une multitude de croyants, le père du peuple élu, et que son peuple va devenir aussi nombreux que les grains de sable du désert. Et malgré toutes les apparences contre lui, eh bien Abraham va faire un acte de foi et va croire en ce que disait notre Seigneur Jésus-Christ par les anges. Mais c'est là où on voit la foi extraordinaire d'Abraham. On voit aussi d'autres vertus chez David, notamment la vertu de miséricorde, je vous l'ai déjà dit, la miséricorde que notre Seigneur Jésus-Christ va devoir appliquer à l'égard de David à cause des péchés de David. Hein, et toute la fuite de David qui doit fuir Saul, qui cherche à le tuer, dans cette fuite représente justement déjà les persécutions des Juifs contre notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. Ainsi Abraham, dans plusieurs circonstances, a été la figure du Christ, et l'a été de plus par son nom, car Abraham signifie « père de plusieurs nations », et le Christ a ôté aussi le père de tous les fidèles. Abraham sortit donc avec sa famille pour aller habiter dans une terre étrangère, et le Christ abandonna le peuple juif pour aller chez les gentils dans la personne de ses apôtres. Et nous aussi, nous sommes dans une vallée de larmes. Nous sommes dans une vallée de larmes, et cette vallée de larmes représente justement une terre étrangère, par laquelle nous devons passer. Nous sommes que des viateurs, comme dit le texte, le mot théologique, des viateurs. Nous sommes sur le chemin, mais pas pour nous arrêter ici-bas, on n'est ici que de passage, et le point d'arrivée, c'est le ciel. Alors, si je vous ai montré à partir des textes des pères, donc certaines des grandes vertus de ces grands patriarches, donc en bas de la page 3 sur le polycopier, Abraham, donc, par ces exemples, il est une figure de la vertu de foi, hein, puisqu'il est dit de lui, Abraham crut à Dieu et sa foi lui fut imputée à justice. Donc plusieurs fois, on verra que notre Seigneur Jésus-Christ se présente comme fils d'Abraham et fils de David. Donc Isaac, c'est la figure de l'espérance. Hein. Alors son nom signifie « ri », disent les pères, il fait en effet la joie de ses parents. Or, ce qui fait également l'espérance en nous comblant de joie dans l'attente des biens éternels. Donc Abraham engendra Isaac parce que la foi est mère de l'espérance. Donc Abraham représente, si vous voulez, la foi. Et ensuite, les enfants qui vont sortir d'Abraham vont représenter la conséquence de la vertu de foi, à savoir la vertu d'espérance. Je crois en quelque chose que je ne vois pas et j'espère obtenir cette chose que je ne vois pas. Je crois en quelque chose que je ne vois pas, c'est la foi. J'espère obtenir quelque chose que je ne vois pas, c'est la vertu d'espérance. Donc, la foi est mère de l'espérance. Isaac, qui doit être offert par son père en sacrifice sur le mont Moria, représente clairement le Christ qui fut crucifié sur la même montagne, apportant le salut et la joie au monde entier. C'est un passage bien connu de l'Écriture sainte. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est représenté par le fils par Isaac. Donc qui va être offert par son père en sacrifice sur le mont Moriah. Le mont Moriah, c'est le calvaire. C'est le même mot. Donc notre Seigneur Jésus-Christ donc est déjà représenté et par Jacob et par Isaac et par Abraham et par David. Et donc Isaac doit être offert par son père en sacrifice sur le mont Moriah, qui représente clairement le Christ qui fut crucifié sur la même montagne et qui apporte le salut et la joie au monde entier. Donc après c'est Jacob qui est la figure de la charité. La charité qui embrasse à la fois deux vies différentes, la vie active par l'amour du prochain et la vie contemplative par l'amour de Dieu. La vie active figurée par Lia, première épouse de Jacob, la vie contemplative par Rachel. Lia signifie celle qui travaille, parce que la vie active suppose nécessairement un travail. Rachel signifie le principe vu, car par la vie contemplative on voit Dieu qui est le principe de toute chose. Oui. Donc on voit très bien là la troisième vertu théologale qui apparaît, après la foi d'Abraham, l'espérance d'Isaac, on voit maintenant la charité qui va être manifestée par Jacob, et ensuite on va voir d'autres vertus qui vont apparaître, par exemple la vertu de chasteté qui va apparaître surtout avec, Joseph, donc fils de Jacob, donc la génération qui suit. Joseph, donc, qui avant de devenir le maître de l'Égypte après le pharaon, donc Joseph qui va être mis en prison et accusé de luxure, de péché de luxure avec une femme alors qu'il n'avait absolument rien fait du tout et qui donc représente la vertu de chasteté. Donc c'est comme ça qu'il faut voir tous ces grands noms qui vont apparaître maintenant dans l'histoire de la généalogie du Christ dans son humanité. Donc ces grands noms nous représentent un certain nombre de vertus qui sont manifestées tout en notre Seigneur Jésus-Christ et chacune en partie dans les différents noms qui vont être égrenés par la généalogie. Donc, certains de ces noms sont très connus, c'est pour ça que Saint Matthieu va insister sur ces noms dès le début, donc David, Abraham, ensuite il insiste sur Isaac, Jacob et Judas et ses frères. Ensuite il va aller beaucoup plus vite. Donc c'est le verset 3, 4 et 5. Donc Judas, en bas de la page 3 sur le polycopier. Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz des Rabab. Boaz engendra Obed des Ruth. Obed engendra Jessé. Et Jessé engendra David qui fut roi. Donc encore là, il va insister sur le roi David. Donc nous verrons cela, donc, si Dieu veut, mardi prochain. Hein, donc, pour arriver à nous y retrouver un petit peu. Donc j'ai terminé maintenant la page 1, 2 et 3 du polycopier de Saint Matthieu. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, le Saint-Esprit, ainsi soit-il.